Eh bien, si vous êtes comme moi, vous aimez ça, entendre des témoignages de prières qui sont exaucées. Amen. Ah, c'est tellement bon. Hein? Tu donnes une prière, tu pries au Seigneur, tu demandes au Seigneur quelque chose. Et parfois, à notre grande surprise, ça devrait pas, mais à notre grande surprise, Dieu répond d'une façon tout à fait inattendue. Et parfois, c'est notre surprise dans le sens de voir comment il exauce. Et des fois, c'est des exaucements inusités, hors du commun. Et récemment, je lisais ce témoignage assez inusité dans le London Times, qui raconte l'histoire d'un homme qui a adressé une prière à Dieu. Vous savez, à travers le monde entier, des milliers et des milliers de lettres s'écrivent à Dieu ou à Jésus-Christ. Des prières sont écrites, puis sont écrites sur un papier. On met ça dans une enveloppe, on écrit juste Dieu sur l'enveloppe. Puis on envoie ça dans la boîte à mal, puis ça part. Où est-ce que ça va, ça, c'est toutes ces lettres-là? Eh bien, pour une raison quelconque, et croyez-moi, il y en a des milliers et des milliers à travers le monde, partout, et pour une raison quelconque, ces lettres aboutissent à un bureau de poste à Jérusalem. Le porte-parole du bureau de poste à Jérusalem, il s'appelle Yitzhak Rabbi, a raconté, a dit ceci. Il a dit, à chaque année, nous recevons des milliers de lettres. Et ça, ça pourrait t'intéresser, Yvon, toi qui travailles au bureau de poste, évidemment. Hein? Des milliers de lettres qui sont envoyées à travers le monde, à Dieu ou à Jésus-Christ, et ils aboutissent pour une raison quelconque ici, à notre bureau de poste à Jérusalem, et ils sont affectés dans un département qu'on appelle des lettres non livrables. Il dit un jour, et ça c'est lui qui continue son histoire, et il dit un jour, il dit, on a tombé sur une lettre, on a ouvert l'enveloppe, et on a tombé sur une lettre d'un Israélien qui demandait 1 000 $ à Dieu, soit 5 000 shekels, pour soulager sa pauvreté, et il donnait des détails dans sa lettre, tout ça. Il dit, nous autres, les employés, il dit, au bureau de poste, on a tellement été touchés, puis on a tellement eu de la compassion par la pauvreté de ce gars-là et par la demande de ce gars-là, qu'on a décidé de faire une collecte ensemble, les employés au bureau de poste. Alors, on s'est vidé les poches et tout ça, puis la gang ensemble, on a réussi à ramasser 860 $. Alors, écoute, c'est pas mal proche de 1 000 $. Lui demandait 1 000 $. Puis finalement, on a réussi, on a travaillé très fort. On est allé voir tous les employés et tout ça. Puis vraiment, plein de générosité, les gars sont venus. Puis ils ont ramassé 860 $. On l'a mis dans l'enveloppe, puis on l'a envoyé chez eux. Eh bien, il dit, imaginez-vous donc, 2 semaines après, on a reçu une lettre envoyée à Dieu par le même gars. Voici ce qui était écrit. Il dit, Dieu, je te remercie pour ta contribution. Il dit, la prochaine fois, veux-tu pas passer par le bureau de poste, une gang de voleurs, il manque 140 $. Et lui, il avait vraiment la foi, hein? Mais blague à part, soyons honnêtes, tous et chacun, on aime beaucoup entendre des prières exaucées, des histoires que parfois, Dieu va ouvrir juste un instant le rideau de sa puissance. Là. Juste un instant, là, c'est comme si Dieu sort un petit peu là, d'un nuage, ouvre ça un petit peu et nous laisse entrevoir un morceau comme le tiers du quart, la moitié du tième de sa puissance. Et là, il exauce d'une façon tout à fait extraordinaire. C'est pour ça que j'aime tellement, moi, le film « Les 10 commandements ». Êtes-vous comme moi que lorsque tu arrives, Moïse arrive devant l'océan? Ah, moi, c'est le moment, j'ai la chair de poule. À chaque fois, moi, j'écoute ce film-là, là, quasiment juste pour ça. Le moment où Moïse est en avant de la mer, l'ennemi s'en vient, puis tu le sais, ça n'a pas de bon sens sur le plan militaire. Ils sont faits, ils sont perdus, vont mourir. Puis tu as la grosse force égyptienne qui s'en vient en arrière, sont perdus. Eux autres sont tu sais, les Égyptiens sont convaincus qu'ils vont les avoir. Ils arrivent, tout. Là, Moïse, hein, lève le bâton. Puis d'un coup, là, la mer, l'océan se déchire en deux, là. Puis tu vois ça, puis c'est Dieu, là, qui c'est comme son doigt, là. Puis ouvre ça en deux, là. Là, je suis là dans mon salon. Oh, yeah! Ah, man! Alléluia! Et ça, c'est mon Dieu! Là, ça commence, ça avance, puis ça traverse. Ah, ben là, mon ami Charles de mon salon, là, il dit, ça, c'est mon Dieu. Mon Dieu est puissant, il est capable. Et là, je suis correct, mon ami, pour une couple de jours. Jusqu'à temps que je lise les Écritures à nouveau, là, puis j'ai besoin parfois de ce remontant-là. Et je ne sais pas si au début de l'année, parfois, vous avez peut-être besoin de ce remontant-là. Un peu loin, tu sais, on est en janvier, la neige, un paquet de neige, il y a tellement de neige, je ne comprends pas. C'est pas normal. Ça a l'air que ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu de neige de même. Depuis, je parle de 1960 et quelques. Et puis, là, tu es peut-être un petit peu fatigué, puis tu as besoin là, d'un remontant. Eh bien, laissez-moi vous dire que ce matin, vous êtes venu à la bonne place. Amen. Parce que le texte que nous allons voir est justement un de ces passages où Dieu ouvre un petit peu son rideau, là. Juste le rideau, puis laisse entrevoir un petit peu de sa puissance. Ah, mon ami, quand j'ai étudié ce passage, j'avais tellement hâte à ce matin, je n'étais plus capable de me contenir. J'ai dit, ah, mon Dieu, j'ai-tu hâte d'aller prêcher ce passage-là, voir la puissance de Dieu. Ah, c'est magnifique. Maintenant, il faut parler de miracle un petit peu, juste avant. On a besoin de faire une introduction ici. Laissez-moi vous parler de miracles. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, on sait que Jésus a fait plusieurs miracles. D'ailleurs, Jean finit sa lettre en disant ceci. Il dit, Jésus a fait encore beaucoup de choses. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Hey, est-ce que Jésus a fait bien des affaires? Imagine-toi donc, le monde, et ça c'est inspiré du Saint-Esprit, là. C'est Dieu qui dit ça, là. Dieu n'exagère pas, là. C'est lui-même qui le dit. Il dit, si on enregistrait tout ce que Jésus a fait, il n'y a pas assez de place sur la terre, il faudrait aller sur la lune pour mettre les autres livres qui décriraient toutes les œuvres et tout ce que Jésus-Christ a fait. Incroyable! D'ailleurs, Matthieu, au début de sa lettre, Matthieu va dire dans Matthieu 4, 23, il va dire, Jésus en Galilée, écoutez bien, c'est très fort, là, guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Toute maladie. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Jésus était ici aujourd'hui et exerçait son ministère en 2008, il rentrerait à l'hôpital Pierre Boucher, viderait la place. Non, mais c'est ça que ça dit. Toute maladie. Ça, c'est fort. Imagine-toi, Pierre Boucher ferme les portes. Manque de malades. Hein? Amen, Catherine? Hey, ça serait bon, hein? Les médecins chercheraient d'ouvrage. Les infirmières. C'est ça que ça dit. Jésus guérissait toute maladie. Maintenant, alors on sait que Jésus a fait plusieurs miracles. Il a fait une tonne de miracles. Plein de guérisons. Des centaines. Des centaines. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens malades dans une ville? Une ville. En Galilée. Alors, dites-moi pourquoi des centaines et des centaines et des centaines de guérisons et de miracles que Jésus aurait faites, Dieu a décidé de garder le record seulement de 37 de ces miracles-là. 37 sur des centaines. Laissez-moi vous poser une autre question maintenant. Sur les 37 miracles qu'on a décidé de garder, que Dieu a décidé de garder, enregistrés dans le Nouveau Testament, pourquoi la première fois qu'on voit un miracle qui est décrit, dans le premier livre du Nouveau Testament, c'est celui qu'on va voir. La guérison d'un lépreux. Il faut se poser la question. Il y a une intention délibérée d'avoir choisi sur les centaines de miracles et de guérisons que Jésus a faites. Il y a une raison d'avoir choisi la guérison du lépreux. Il aurait pu en choisir une tonne. C'est celui-là qui choisit. Eh bien, comme on va le voir ce matin, ce miracle ne tombe pas par hasard. D'ailleurs, tous les 37 miracles ne tombent pas par hasard. Il y a une raison pour ça. Et il faut se rappeler, il faut savoir si jamais vous venez de vous joindre à nous, nous sommes en train de faire une série du livre de Matthieu, il faut se rappeler ensemble, il faut regarder ce miracle à l'intérieur du contexte du livre, ce qu'on appelle le corpus de Matthieu. Pourquoi ça arrive là? Premièrement, Matthieu, faut réaliser que Matthieu a un but très tangible et très clair lorsqu'il écrit son livre. On l'a vu d'ailleurs depuis le début de notre série sur Matthieu. Matthieu veut prouver, valider, il va démontrer, preuve après preuve après preuve après preuve après preuve, que Jésus est le Messie. De toute sa manière, il va choisir des événements et tout ça dans la vie. Il faut se rappeler aussi que Matthieu n'écrit pas de façon chronologique la vie de Jésus. C'est pas une biographie de Jésus-Christ ici, là. C'est un livre qui nous révèle qui est Jésus-Christ, qu'on appelle la théologie. D'ailleurs, Matthieu va démontrer, preuve après preuve, il va choisir des événements dans la vie de Jésus, va les mettre dans son livre, et pour nous démontrer, nous prouver que Jésus est le Messie. Premièrement, il commence avec la généalogie. Quel individu commence à écrire un livre en nous donnant une liste, une page de généalogie? Tu t'en vas chez Costco, tu regardes les livres, tout, la première affaire, tu ne verras pas. Je peux te garantir, tu ne verras pas une liste de généalogie. On s'entend-tu? Les experts en publication vont dire, t'es-tu malade? On ne fait pas ça. Ce n'est pas la façon que tu vas accrocher le lecteur. Mais vois-tu, ce qu'il faut savoir, c'est que Matthieu est très sage. Il est inspiré du Saint-Esprit. Et Matthieu écrit, premièrement, à la communauté juive et veut leur prouver, regarde, c'est qui Jésus? Premièrement, il vient d'une famille qui est selon la lignée de David. Il est le fils de David, qui était déjà à l'époque du Nouveau Testament un titre messianique. Et il l'applique à Jésus-Christ. Il veut démontrer par la généalogie que Jésus est le Messie. Plus loin, il parle de la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Regarde, c'était déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Et il prouve que Jésus est le Messie. La venue des mages. Hey, laissez-moi vous poser une question. Quel astrologue qui vient de la Mésopotamie, astrologue, astronome, il n'y avait pas de différence en l'Antiquité, ceux qui étudiaient les étoiles et tout ça, les événements. Pensez-y un instant. Est-ce que c'est logique d'avoir des gens qui viennent d'un autre pays, qui est de la Mésopotamie, Babylone, qui va quitter, va venir faire un long voyage pour adorer le roi d'un autre pays, notamment Israël? Pensez-y, là. Ils quittent, ils s'en vont dans un autre pays, et ils adorent, même pas le roi de leur pays, le roi d'un autre pays, le roi des Juifs. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, des centaines d'années dans le livre de Daniel, il y avait eu une prophétie qui avait été donnée, qui donnait justement l'échéancier de la première venue de Jésus-Christ sur terre, qui devait arriver dans le Nouveau Testament. Et Daniel avait sauvé la vie des astrologues, vous vous rappelez, dans le livre de Daniel. Plusieurs astrologues se sont convertis, moi je suis convaincu. Puis ils attendaient ce Messie, parce que Dieu avait donné une prophétie à Daniel et décrit dans le livre que le Messie sortirait justement quand? Dans la période du Nouveau Testament. Nous lisons d'ailleurs plus loin, beaucoup plus loin, avec Balaam. Balaam que Balak va chercher, demande à Balaam d'aller maudire. En passant, Balaam avait une réputation, je ne sais pas si c'était internationale, mais certainement nationale. Lorsque Balaam, ce prophète, maudissait un peuple, le peuple était maudit. Et lorsqu'il le bénissait, le peuple était béni. Ils avaient une réputation, même les archéologues le démontrent. Il était connu partout. Balak va voir Balaam puis demande d'aller maudire le peuple d'Israël. Et Balaam reçoit une prophétie de Dieu. Et dans la prophétie, il reçoit toutes sortes de choses lui interdisant de maudire le peuple d'Israël. Entre autres, il reçoit une prophétie disant qu'un astre va lever. Une étoile va lever de Jacob. Et même les rabbins interprètent ce passage-là comme voulant dire que c'était le Messie. Balaam, à la fin de l'histoire, ça dit, Balaam retourna chez lui. Où ça? Dans le nord, dans la Mésopotamie. Même région que Daniel plus tard, beaucoup plus loin. Alors, vous aviez cette tradition de révélation dans le nord, toute cette région-là. Et je crois personnellement que les mages ont étudié ces choses, ont vu ces choses et attendaient depuis longtemps la venue de ce Messie. Alors, Matthieu met cela dans le record, l'histoire des mages qui prouve et qui donne à penser aux Juifs, toute à cette histoire de Daniel. Hérode aussi montre la venue de Jésus-Christ comme étant le roi. Hérode qui fait tuer une vingtaine de jeunes enfants. C'est hors de l'ordinaire. Jean-Baptiste, qui est le précurseur du Messie, tel qu'annoncé dans l'Ancien Testament, le sermon sur la montagne également, qui est la loi nouvelle du royaume de Dieu qui montre c'est le Messie. Alors, à la fin du sermon sur la montagne, Matthieu nous dit que Jésus est descendu de la montagne et là, il guérit un lépreux. Qu'est-ce que Matthieu est en train de nous dire? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Matthieu
est en train de nous aider à construire ce qu'on appelle en doctrine la christologie. La christologie, c'est qu'on veut se bâtir une opinion sur qui est Jésus. Alors ça, c'est notre doctrine, la doctrine de Christ. Et ce que Matthieu va faire particulièrement, c'est de nous démontrer que Jésus est le Messie. Matthieu pourrait mettre l'accent comme les autres, comme Jean, comme Marc ou Luc, mettre l'accent sur d'autres aspects de Jésus-Christ. Mais Matthieu, lui, veut démontrer, faire la preuve que Jésus est le Messie. C'est dans le morceau de notre christologie, de ce qu'on peut concevoir de Jésus-Christ, Jésus-Christ est homme, 100% homme, on voit aussi dans la Bible qu'il est 100% Dieu, on voit plusieurs choses sur Jésus-Christ. Alors qu'on se confectionne une idée de qui est Jésus-Christ, Matthieu, lui, va nous démontrer une branche de notre christologie que Jésus-Christ est le Messie. D'accord? On peut voir plusieurs choses à l'intérieur de ce qu'il est le Messie. Premièrement, on a vu la famille de Jésus-Christ, la généalogie dans le chapitre 1. On a vu toutes sortes de choses. Et ce morceau, ce passage que nous allons voir dans Matthieu 8, 1 à 4, dans un instant, cherche à faire la preuve que Jésus a l'autorité messianique. Il a l'autorité du Messie. D'accord? Il n'est pas en train de démontrer qu'il a la famille, qu'il vient de la famille messianique. Il a démontré ça au chapitre 1. Mais ici, avec ce miracle, il cherche à faire la preuve que Jésus a l'autorité messianique. Et ça, c'est très important. On ajoute cela à notre conception de qui est Christ. D'accord? Et Matthieu va faire la preuve, va nous démontrer que Jésus-Christ a l'autorité messianique en nous présentant ce miracle, cette guérison, sous quatre angles. Quatre angles. Premièrement, l'angle du sermon sur la montagne. Matthieu va faire quelque chose de très intéressant ici. Si on n'est pas un peu habitué, je vais faire exprès, je vais ouvrir une parenthèse ici ce matin, parce que je pense qu'un de nos rôles, c'est de, comme pasteur, c'est de partager ensemble comment on doit lire la Bible. La Bible, ce n'est pas un roman, là. La Bible est inspirée, c'est la parole de Dieu. Et il y a des repères que parfois le Saint-Esprit va mettre sur la plume d'un auteur du Nouveau Testament ou de l'Ancien pour nous aider à voir, à faire des liens, c'est pour nous aider à comprendre, d'accord? Et ce matin, je vais juste ouvrir une parenthèse ici, parce que c'est exactement ce que Matthieu va faire. Matthieu dit ceci au verset 1. « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici un lépreux. » Maintenant, Matthieu n'aurait pas eu besoin nécessairement de faire le lien avec le sermon sur la montagne. Mais il le fait par exprès. Ce n'est pas juste pour que ça coule. Ce n'est pas une technique linguistique seulement. C'est qu'il veut faire un lien, et laissez-moi simplement vous suggérer en ce moment, c'est qu'il est en train de faire un lien théologique avec le sermon sur la montagne. Donc, le premier angle que Matthieu va nous présenter, l'autorité messianique de Jésus-Christ, c'est en faisant un lien théologique avec le message que Jésus vient de faire. En d'autres mots, le même qui a donné la loi nouvelle du sermon sur la montagne qui a duré trois chapitres, du chapitre 5 au chapitre 7, le même qui a donné cette loi nouvelle est le même qui commande à la lèpre. D'accord? Je pense qu'on est dû pour lire le passage. Et on va tourner ensemble dans Matthieu 8, si vous voulez bien, versets 1 à 4. Qui dit ceci. Et vous êtes là, Matthieu 8, 1 à 4, et j'espère que vous avez amené votre Bible ce matin avec vous. On va souligner quelques détails. 1 à 4, Matthieu 8, 1 à 4. « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. » Ou continue à le suivre. Des milliers de personnes, on ne sait pas combien, peut-être 5, 10, 15 000. « Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, « tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de la lèpre. Alors, sur le champ. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Alors, Matthieu, par exprès, va faire un lien théologique avec le message qui vient de précéder. Et ce qu'il est en train de dire, vois-tu, celui qui a donné le message de la loi nouvelle, on devrait suivre ce message-là. Il faudrait obéir au Seigneur, il faudrait croire en Jésus-Christ, qu'il est bien le Messie, et ce que le message qu'il vient de donner est bel et bien authentique, et ça vient de Dieu. Pourquoi? Voici un miracle qui l'authentifie. Et ça se fait plus d'une fois dans le Nouveau Testament, plusieurs fois, tu vas avoir toujours, mais pas toujours, mais très souvent, une déclaration nouvelle, une révélation nouvelle, et accompagnée de miracles. Pourquoi? Parce que ça l'authentifie, ça confirme. Par exemple, à un moment donné, dans un seul chapitre, Jean chapitre 6, j'avais pas besoin de tourner, juste faire allusion à quelque chose, Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 6, « Je suis le pain de vie. » Et dans le même chapitre, il va faire quoi? La multiplication des pains. Un autre tantôt, Jean 9, verset 5, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Un verset après, verset 6, il dit, « Il guérit un aveugle. » Vous voyez, ces liens, ce sont des repères. Pourquoi on les met ensemble? Ce sont des repères qui valident le message. Le miracle vient valider le message, comme quoi ça vient de Dieu, ça confirme. Parfois, on a d'autres repères. Et je crois que c'est ça que Matthieu vient de faire ici. On va s'amuser. Tournez avec moi dans Marc, d'accord? Dans Marc 4, verset 35. Parce que je crois qu'une de nos responsabilités comme ouvriers, c'est de nous montrer ensemble comment lire la Bible, comment reconnaître les repères, d'accord? Alors, je prends le temps de souligner ça parce que c'est un petit cours qu'on vous donne en même temps, d'accord? On ne vous chargera pas plus pour ça, c'est correct. Mais j'espère que vous êtes avec moi ici dans Marc 4. Vous allez voir un petit détail ici qui a tellement l'air de rien. Marc 4, 35 à 37. Alors, on connaît l'histoire, c'est Jésus. Alors, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Alors, j'ai déjà expliqué ça il y a quelques années ici à Longueuil, on va le refaire. Simplement, pour vous mettre dans le contexte un peu ce qui se passe, c'est que les disciples sont avec Jésus-Christ et Jésus veut que les disciples embarquent ici dans cette barque, traversent la mer et aillent l'autre bord. Cette expression-là, aller de l'autre bord, ça c'est une expression très connue, ça s'enseignait constamment avec les rabbins. Les rabbins et les prêtres du temps disaient toujours, faut pas aller l'autre bord. Pourquoi l'autre bord? Parce que l'autre bord, c'était les nations, c'était les païens, les non-juifs. Tu n'allais pas l'autre bord, c'était la région du diable. D'ailleurs, les rabbins enseignaient dans les synagogues que l'autre bord, c'était l'adresse de Belzébul. C'était le diable était l'autre bord. Donc, les disciples sont là, puis ils veulent pas y aller. Ils disent, on va pas l'autre bord. Et Jésus dit, non, on va y aller. Et ce que Jésus est en train de leur dire, c'est qu'on va l'affronter, l'ennemi. L'ennemi, c'était pas les non-juifs. Mais ici, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'écoute bien, là, je veux vous montrer une chose, c'est que moi, je suis au-dessus même des royaumes des ténèbres. Même la mer était considérée comme l'abysse. Les Juifs n'aimaient pas la mer. La mer, c'était là qui était c'était sombre, c'était là qui était le diable aussi, c'était les ténèbres. D'ailleurs, petite parenthèse, ça c'est juste pour vous amuser, vous là, qui êtes les maniaques là, un petit peu de la Bible, c'est que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aurait pas de mer. Je vous lance ça comme ça, je ne chargerai pas plus cher pour ça. Là. Mais les Juifs, dans l'esprit des Juifs, la mer, c'était là qui était le creux, c'était là, c'était sombre. On n'allait pas s'amuser là en plein milieu de la nuit, là. D'accord? On y allait parce qu'on était obligé d'aller à la pêche et tout ça, mais c'était pas comme sur le bord de Cancun, sur le bord de la mer, aller prendre. C'était pas vraiment la mer dans la littérature juive. Et comme de fait, les disciples embarquent dans la barque, s'en vont de l'autre côté. Puis qu'est-ce qui arrive une fois qu'ils débarquent la barque, ils arrivent au bord? Première affaire qui arrive, c'est qu'ils rencontrent un démon. Un homme possédé des démons. Il reste même dans un sépulcre. Il faisait encore plus peur, lui. Alors les disciples sont là. On savait, hein? Tu vas pas l'autre bord. Qu'est-ce qui arrive en plein milieu du voyage, en plein milieu du centre du voyage dans la mer? Tempête. Les vagues. Puis c'est épouvantable. Ils sont presque morts. Les disciples sont dans le bateau. Eh oui, c'est sûr. Petit détail. Marc 4, 37. 35 à 37. Je vais vous relire le verset, puis il y a un petit détail qu'il y a là. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons l'autre bord. » Alors, tout de suite, vous connaissez l'émotion des disciples. « On va pas à l'autre bord. » D'accord? Suite. « Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. » Regardez bien un petit détail. « Il y avait aussi d'autres barques avec lui. » Vous allez dire, « Ben oui. So what? » Non. Marc est en train de nous dire, « Écoutez, ce sont des experts pêcheurs. » Les gars savent quand il y a des tempêtes qui s'en viennent. Les gars ne s'aventurent pas dans l'eau. Ils ne sont pas nonos. Ils ont des enfants, des femmes qui les attendent. Ils savent. Ils regardaient la température, regardaient ça ici, là. Puis ils disaient, non, les gars, on est habitués, regarde le ciel, puis tout. Tu ne t'aventures pas aujourd'hui. Marc va nous donner un petit repère pour nous donner, pour nous expliquer que ce qui va se passer vient d'une attaque du diable. Je crois que cette tempête qui est envoyée, oui, c'est sûr que Dieu est souverain, contrôle tout, mais la tempête est effectivement vient des ténèbres. Et ce que Marc est en train de nous donner comme repère, il y avait d'autres bacs qui étaient là. En d'autres mots, c'était une belle journée. C'était une journée où il ne devait pas y avoir de tempête. Voyez-vous? Ça, c'est un indice, un dispositif que l'auteur va prendre pour nous donner, pour nous expliquer. C'est pas juste pour embellir l'histoire. C'est nous expliquer qu'il y a quelque chose de théologique, de spirituel qui va se produire ici. Voyez? Et c'est ce que Matthieu va faire en faisant le lien avec le sermon sur la montagne. C'est un lien, donc, théologique. Celui qui a donné le message est le même qui ordonne à la lèpre. Donc, ça, c'est le premier angle qui nous montre l'autorité messianique de Jésus-Christ. Deuxièmement, un autre angle que Matthieu va nous démontrer l'autorité messianique de Jésus-Christ, c'est les détails choisis par Matthieu. Vraiment intéressant que Matthieu aurait pu mettre beaucoup de détails, mais Matthieu ne cherche pas à raconter tout. Ce n'est pas son souci. Le souci de Matthieu n'est pas de raconter tous les détails. D'accord? Jésus a pris un verre de lait. Après ça, il a déposé son verre. Après ça, il est allé dans la cuisine, parler aux disciples. Ce n'est pas son intérêt. Ce n'est pas ça qui le concerne. Matthieu va donc choisir certains détails de l'événement pour faire ressortir que Jésus est le Messie. C'est pour ça que Matthieu va mettre de côté certains détails. Laissez-moi vous lire la même histoire dans Marc. Et j'aimerais que vous écoutiez et me disiez qu'est-ce qui manque dans Matthieu qui se trouve dans Marc. D'accord? Écoutez bien l'histoire. Trichez pas. Allez pas voir dans le texte. Faites juste écouter. Un lépreux vint à lui, se jetant à genoux, et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux. » Sois pur. Est-ce que ce n'est pas important, ça? Ému de compassion. Marc écrit, Jésus était ému de compassion. Matthieu, mais pas cela. Pourquoi? On sait que Jésus était plein de compassion, et c'est merveilleux, et c'est Dieu merci que Dieu est plein de compassion, que Jésus-Christ est plein de compassion. D'accord? Hey, Dieu merci. On ne serait pas là aujourd'hui si ce n'était pas de la compassion de Dieu. On se comprend. Mais lorsque Matthieu va donner cette histoire, et on sait qu'il est plein de compassion, Jésus-Christ, parce que ailleurs, surtout Luc, qui était un médecin, va soulever que non seulement c'était un lépreux, mais c'était un homme qui était plein de la lèpre. Et Jésus est touché, est ému de compassion en le voyant. Mais Matthieu va mettre de côté ce détail parce qu'il est en train de faire la preuve que Jésus a l'autorité messianique. Voyez? Même les détails de Matthieu est une preuve en soi. C'est un angle. Il nous présente cet angle-là. D'accord? Troisièmement, un autre angle. L'attitude du lépreux. Il y a 5, 10, 15 000 personnes et le lépreux vient. Le lépreux n'avait pas le droit de toucher. Il était... On va voir ça tantôt. Un lépreux n'a pas le droit de toucher personne. Personne n'a le droit de toucher un lépreux. Alors, il devait d'ailleurs crier dans son linge déchiré. Un lépreux se promenait avec du linge déchiré. C'était la loi. Et il criait impur, impur lorsqu'il s'approchait du monde. Alors, il a dû crier impur, impur, mais il s'est garoché, s'est lancé aux pieds de Jésus, se met à genoux devant Jésus-Christ. Et regardez bien sa requête, sa prière. Il dit, « Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Imaginez le lépreux lui-même, qui n'avait pas beaucoup d'éducation. Ils étaient mis à l'écart. Ils avaient quand même une certaine formation dans la synagogue, mais ils n'avaient pas le droit d'aller au temple. Lui-même va reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. L'attitude du lépreux lui-même démontre, nous fait voir l'autorité du Christ. Il reconnaît immédiatement, d'ailleurs, l'autorité. Ce qui est bizarre, c'est que dans l'histoire juive, et ça c'est la clé pour comprendre tout ça, c'est que dans l'histoire juive, depuis la loi mosaïque, depuis la loi qui a été donnée sous Moïse, aucun juif, il n'y a aucune littérature d'ailleurs qui démontre, aucun juif, jusqu'à Jésus-Christ, aucun juif n'a été guéri de la lèpre. Aucun juif. Dans toute l'histoire juive, depuis la loi mosaïque, il n'y a aucun juif qui a été guéri de la lèpre. D'accord? Il y a un non-juif qui a été guéri. Oui, c'est un non-juif. La sœur de Moïse, avant la loi mosaïque. Avant la loi mosaïque. D'accord? Mais depuis la loi mosaïque, et ça c'est long là, très très long, jamais aucun juif n'a été guéri de la lèpre. Vous allez voir tantôt ce que ça veut dire. Pourtant, lui, ce lépreux, demande au Seigneur, guéris-moi. Quelle autorité, quelle foi. Quatrièmement, l'ordre de Jésus lui-même montre son autorité messianique. Quelle puissance! Il faut se rentrer dans le contexte, là, ici. La réponse de Jésus, Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Et ça, c'est très fort. Très, très fort. « Je le veux, sois pur. » Jésus ne prend même pas le temps de faire une prière. Il dit même pas, « Père, si tu veux. » D'ailleurs, Moïse a fait une prière pour sa sœur. Il dit, Moïse a dit, « Seigneur, je t'en supplie, guéris-la. » Je vois pas ça ici avec Jésus. Jésus donne un ordre. Et ce que Matthieu veut nous montrer ici, c'est que le vouloir de Jésus, la volonté de Jésus, le vouloir de Jésus est le vouloir de Dieu. Voyez-vous comment c'est très fort ici, là? D'accord? La volonté de Jésus-Christ et la volonté du Père sont un ici. Et c'est là ce qui fait son autorité. C'est là sa puissance. Quand Jésus dit quelque chose, je le veux, ça s'accomplit. Sur le champ, tout de suite. C'est fort. C'est notre Seigneur, ça. Imagine-toi donc quand tu fais une prière au Seigneur. C'est ta volonté, comme le lépreux. Avoir l'attitude du lépreux. Si tu le veux, tu peux. J'ai la foi que tu peux. Si tu le veux, Seigneur. Le Seigneur peut se retourner et dire, je le veux. Là que c'est bon, hein? Ah, que c'est encourageant de savoir ça. À tout moment, quand tu pries. Et évidemment, le miracle lui-même montre l'autorité et la puissance de Jésus-Christ. Maintenant, celui qui souffrait de la lèpre, c'était terrible, la lèpre. Il souffrait non seulement physiquement, socialement et spirituellement. Premièrement, physiquement, on sait que ça il y avait même des membres qui tombaient. On ne sait pas si c'est exactement la même maladie qu'aujourd'hui, mais certainement qu'à l'époque, la lèpre, il y avait des morceaux, ça brûlait. Moi, quand je suis allé en Israël, j'ai vu un lépreux. Et il y avait toute la jambe noire, brûlée. Des fois, il manque le pied ou des orteils ou des doigts. C'est épouvantable. Encore aujourd'hui, 4 ou 5 millions de personnes souffrent de la lèpre. 800 000 nouveaux cas. Si on compare à, je pense, la maladie d'Hansen, pas sûr, mais si on compare la lèpre d'autrefois à aujourd'hui, en tout cas, certainement, une forme de lèpre aujourd'hui, 800 000 nouveaux cas par année, 2 000 par jour. C'est épouvantable. Mais non seulement qu'il souffrait physiquement, il souffrait aussi socialement. Et c'était partout pareil dans l'Antiquité. Et même Hérodote, un historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, affirme que la lèpre, eux autres appelaient ça le pisaga. Les lépreux étaient carrément mis de côté de la société. Et non seulement ça, c'était un étranger, ils te mettaient dehors carrément du pays. Alors, socialement, lorsque tu avais la lèpre, tu étais carrément mis à l'écart. Et c'est aussi le cas avec les Juifs, sauf qu'avec les Juifs, Dieu avait donné une prescription dans Lévitique 13 et 14, deux chapitres, plus de 120 versets, juste sur cette question de la lèpre. Mais Dieu avait dit de le mettre à l'écart, mais ce n'était pas pour le punir, ce n'était pas un manque de compassion, c'est une question d'hygiène et tout ça. Et on avait associé la spiritualité à ça aussi. Le seul cas où tu devenais cérémoniellement impur, lorsque tu touchais un vivant, c'était lorsque la personne avait une lèpre. Maintenant, tu devenais cérémoniellement impur, si tu touchais un corps mort ou un animal mort. Mais la seule fois lorsque tu touchais un vivant et tu tombais comme sous un cérémoniellement impur, c'est lorsque tu touchais un lépreux. Il y a des raisons théologiques derrière ça, on n'aura pas le temps de voir ça ce matin. Mais tu n'étais pas appelé à bouder, à mépriser. Jamais Dieu demande de mépriser le lépreux. D'ailleurs, Jésus lui-même aura la compassion envers lui. Mais pourtant, la loi juive est allée beaucoup plus loin. D'ailleurs, les Juifs, même les prêtres, on découvre ça dans la littérature juive. Dans un traité juif du nom de Midrash Rabba, on va dire que le rabbin Yohanan a dit, écoute, ça prend absolument une distance de 6 pieds entre toi et le lépreux. D'autres, un autre rabbin a dit, ça prend 150 pieds de distance entre toi et le lépreux. Même toi, quand c'est ta fille, quand c'était des membres de ta famille, tu n'avais même pas le droit de t'approcher en dedans de 150 pieds ou 6 pieds ou 10 pieds. Tu n'as pas le droit de toucher. Fini. Aussitôt que tu étais déclaré lépreux, c'était fini. Toute la communion était finie, familiale. Et on avait expliqué la distance à cause du vent. Il disait, écoute, quand il y a du vent, 150 pieds, quand il n'y a pas de vent, 6 pieds. Enfin. Certains prêtres se vantaient même sur la façon dont on se moquait des lépreux. Même les rabbins et les prêtres se moquaient des lépreux, puis ils s'en vantaient. Il y avait des prêtres, on découvre ça dans la littérature juive, des prêtres qui se moquaient de ne pas magasiner sur le même boulevard que les lépreux. Un autre prêtre se vantait de lancer des roches aux lépreux. Quand il voyait les lépreux, il pitchait des roches. Il se vantait de ça, on voit ça. Alors, et le raisonnement était que le lèpre relevait d'un jugement de Dieu. Parce qu'à chaque fois, tu vois dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu punit quelqu'un, souvent c'est par la lèpre. C'est ce qui est arrivé avec Marie. Alors, on associait la lèpre à une conséquence du péché. On disait, c'est parce que tu es pourri dans l'âme. C'est pour ça que tu as la lèpre. C'est ça que les gens disaient. C'est pas ça que Dieu a dit, mais c'est ça que les gens disaient et s'enseignaient dans le temps. On associait ça au châtiment de Dieu. Le lépreux souffrait aussi spirituellement. Et c'était vrai aussi partout dans la région, même en Chine. Hein, on a découvert la littérature qui démontre qu'en Chine, on interpréterait la lèpre comme un jugement carrément divin. Partout, en Égypte, en Assyrie, Babylone, tout ça, on associait ça vraiment au péché, au jugement de Dieu. D'ailleurs, lorsque la Bible était assez stricte pour le lépreux, dans le sens qu'il fallait le mettre de côté, lorsqu'un homme aura la tête dépouillée, dans Lévitique 13, 40, lorsqu'un homme aura la tête dépouillée, attention ceux qui perdent des cheveux, lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. Et vous êtes correct. Si la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, ça remonte, c'est un chauve par devant, il est pur. Je donne aucun commentaire, OK? Mais s'il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux. Il est, à ce moment-là, déclaré officiellement devant tout le village impur. Le sacrificateur le déclare impur. C'est à la tête que sa plaie, le lépreux, atteint de sa plaie. Regardez bien ce qui se passe. Tout de suite, ça changeait ta vie carrément. Aussitôt que tu étais déclaré lépreux, impur, cérémonialement impur, c'était fini pour toi, ta vie changeait, basculait. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés, aura la tête nue, se couvrira la barbe et criera impur, impur. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Lorsqu'on avait érigé, c'était un emplacement pour les lépreux, on les avait envoyés là. Le lépreux était habillé du nez jusqu'aux pieds, linge déchiré, et à chaque fois qu'il voyait une personne s'approcher, il devait crier « Impur! Impur! » Ça, c'était ta vie, ça. Imaginez. C'est fini. Expulsé du temple, tu n'as plus le droit de rentrer au temple, tu avais le droit de rentrer à la synagogue, mais tu étais le premier à rentrer, le dernier à sortir, dans un coin spécial, affecté aux lépreux. Ce qui est intéressant ici, c'est un petit détail qu'on va donner ici, puis c'est important chez Matthieu. Et ça n'a pas rapport à la compassion nécessairement, comme l'autorité. Jésus toucha le lépreux. Jésus met de côté, Jésus fut ému de compassion. Matthieu met de côté cette notion de compassion de Jésus-Christ, mais il va garder. Jésus toucha l'impur. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que lorsque Jésus touche à ce qui est impur, ça ne peut pas rester impur. C'est le contraire qui se passe. Lorsqu'un être humain touchait un impur, l'humain devenait cérémoniellement impur. Lorsque Jésus touche un impur, c'est le contraire qui se passe. Ce qui est impur ne peut plus rester impur et ne sera plus impur. Il devient pur. Ah, c'est magnifique. Manquez pas ça, les amis. C'est vraiment là, le clou du message. Lorsque Jésus touche une personne, et faisons un lien avec ce que Matthieu fait. Faisons un lien spirituel. Matthieu nous donne le droit de le faire. Et lorsque Jésus touche une personne, il ne reste pas impur. Ah, que c'est magnifique, hein? La journée où Jésus a mis sa main sur toi, toi qui étais impur, tu es devenu pur. C'est glorieux. Ah, c'est glorieux. Tous tes péchés ont été effacés, purifiés. Alors, Jésus le guérit et le purifie. Et ce qui se passe est vraiment intéressant. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et puis, Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne. » Bon, nous, on dit ça à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il a fait, tu penses? Bien, Marc ajoute, « Il est allé partout, il n'a pas écouté le Seigneur, puis il est allé partout, puis il a révélé ça à tout le monde. » Puis, à quelque part, ça se comprend. Ça envoie sa famille, ça envoie sa femme. C'est, tu sais, peut-être qu'il y a des enfants, on ne sait pas. Ça envoie tout le monde. Hey, mais Jésus lui dit quand même. Et il l'a fait. De toute façon, Jésus dit ceci. Garde-toi d'en parler à personne, parce que s'il allait partout, et c'est exactement ce qui est arrivé, s'il allait partout dire ça à tout le monde viendrait encore plus, puis il ne serait pas capable de continuer son ministère. Il y a des gens qui se posent la question pourquoi Jésus disait ça. C'est simplement pour essayer de protéger son temps, pour que lui-même, il avait tout son plan établi pour arriver à la croix. Il ne voulait pas bousculer ça, il gardait quand même le contrôle de tout ça. Et c'est comme de fait, Marc ajoute, le gars est allé partout, puis il a raconté ça à tout le monde. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Jésus avait de la difficulté à avancer, était bousculé partout, et ça a eu un impact sur son ministère. Mort, mais Dieu est souverain, il a pris ça en main. Mais là, Jésus va lui dire, écoute, garde-toi d'en parler à tout le monde, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Où ça? Lévitique 13 et 14, deux chapitres, 120 versets, juste sur la lettre. Et c'est vraiment intéressant parce que Lévitique 14 est une prescription de ce qu'il faut faire si jamais un lépreux guérit. Le seul problème, dans l'histoire juive, il n'y a jamais eu de lépreux qui a guéri. Alors, on peut dire que les prêtres ne se sont jamais servis de Lévitique 14, certainement Lévitique 13. C'est un peu, comment reconnaître puis déclarer. Ah, ils ont fait ça plusieurs fois. Mais de tout le rituel des sacrifices qu'il fallait faire, ça prenait 16 jours. Lorsqu'une personne disait, hey, je pense que je suis guéri, je pense que je suis purifié, là. Je pense que j'ai plus la maladie. Fait que là, tu allais voir le prêtre. Et là commençait le temps de 16 jours d'examen, puis il y avait après ça, lorsqu'il était officiellement déclaré pur, il y avait des sacrifices d'action de grâce, tout ça. Et ça durait à peu près 8 jours. Ils n'avaient jamais fait ça dans l'histoire juive. Ils ne sont jamais servis du chapitre 14. Et là, tout d'un coup, Jésus est brillant. Jésus aurait pu laisser ça de même. Jésus aurait pu ne rien dire. Il dit, comment est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir les sacrificateurs. Tu vas aller voir. Ils vont fouiller dans leur librairie pour essayer de trouver Lévitique 14, plein de poussière, là. Va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite. L'action de grâce. T'es guéri. Alors, il faut que le prêtre te déclare officiellement un peu. Puis, à quelque part, dans les 16 jours d'examen, le prêtre doit demander, bien, comment t'as guéri? Jésus m'a touché. Les prêtres n'aimait pas le Seigneur. D'ailleurs, nous lisons ailleurs. Ah, il ne faut pas que j'aille trop vite. Il faut l'attendre. Hey, c'est dur. Oh boy, c'est dur. On peut dire ça. En tout cas, on voit certainement ailleurs, lorsque Jésus va faire une telle guérison, que les prêtres refusent. Et c'est là qu'ils refusent. Et en passant, oh, peut-être que je vais non, je suis donc facile. OK, je vais vous lire un passage ici. Là. Non, c'est pas là. Oui. On lui amena un démoniaque aveugle, muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Laissez-moi juste vous expliquer que, avant de dire ça, il n'y a jamais eu de lépreux qui a guéri dans l'histoire juive. Si bien, et parce qu'on associait ça au châtiment divin, on disait que c'était Dieu qui punissait, donc qui c'est qui peut changer le châtiment divin? Les prêtres étaient venus enseigner qu'il y avait deux catégories de miracles. Il y avait les miracles ordinaires, dans le sens où l'Esprit Saint donnait la capacité, le pouvoir à n'importe qui de pouvoir faire un miracle. Il y avait des miracles de deuxième catégorie qu'on appelait les miracles messianiques. Et c'est-à-dire, on était venu à croire, et ça c'est juste avant, un petit peu avant que Jésus arrive sur scène, qu'il y aurait une deuxième catégorie qui appartenait uniquement qu'au Messie. Que seul le Messie pourrait opérer. Alors, parce que vous savez, les Juifs avaient toutes sortes de critères pour déterminer qui serait le Messie. Ah, ils ont développé toutes sortes de critères. Ils disaient, même un des critères, je vais vous donner une idée, un des critères, c'est la senteur. Ils s'appuyaient sur Ésaïe qui disait, « Il respirera l'Éternel, et il ne jugera pas comme les autres hommes. » Donc, les rabbins, ils ont dit, « Ah, OK, il va avoir une senteur spéciale, le rabbin. » Alors, voici un des critères qu'on va avoir, c'est que lorsque le Messie sera arrivé, il va pouvoir sentir les jugements. Alors, Bar Koziva, qui était vraiment un gars qui a régné pendant presque 2 ans et demi, et à un moment donné, il régnait en Israël, et puis il est allé voir les rabbins, il dit, « Ah, je crois vraiment que je suis le rabbin. » Vous savez qu'il y a eu 2 douzaines de prétendus rabbins dans l'histoire juive? 24, hein? Ah, excusez, oui, prétendu Messie, merci. 24 personnes qui se seraient dites, « Je suis le Messie. » Alors, ça prenait des critères. Nous, on sait que c'est juste Jésus-Christ, mais... Alors là, Bar arrive au rabbin, il dit, « Tu sais, moi, ça fait 2 ans et demi que je règne, ça va bien, tout ça. Moi, je suis vraiment le Messie. » Alors, le rabbin, il a dit, « Il n'y a pas de problème, on va se fier sur Ésaïe, c'est un critère. Tu vas pouvoir respirer, tu vas pouvoir faire des jugements selon ton... » Alors, il l'a mis au test, mais ça n'a pas marché, puis ils l'ont tué. Ça n'a pas été long. Un autre critère qu'ils avaient, effectivement, c'était les miracles. Ils seraient capables de guérir des lépreux, entre autres. Et c'est intéressant que l'Évangile nous montre 3 miracles messianiques que Jésus aurait faits. Et laissez-moi juste les énumérer. Premièrement, il y a justement la guérison du lépreux, qu'on voit ici dans Matthieu 8. On voit un peu plus loin le passage, justement, que je viens vous lire tantôt, qui est Matthieu 12, qui est la guérison d'un démoniaque aveugle et muet. Et voici la réaction des gens. Les gens ont très bien compris. Parce que c'est ça qu'on enseignait dans les synagogues, que seul le lépreux pourrait faire ses miracles. Alors, on lui emmène... Le Messie, excusez. Hey, vous êtes encore avec moi, vous êtes patient, hein? Ouais, ouais. On va que je fasse des exercices dans mon bureau avant de venir ici. Ouais. La bouche. Alors, on lui emmena un démoniaque aveugle et muet et le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Alors, toute la foule étonnée. Pourquoi ils étaient étonnés? Parce que ça faisait depuis des années qu'on enseignait à la synagogue que seul le Messie pourrait faire certains miracles, dont celui-ci. Donc, la foule étonnée dit, « N'est-ce point le fils de David? » La foule reconnaît que Jésus est le Messie. Mais les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, et là, vous allez comprendre tout le contexte de ce passage-là, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comment pouvez-vous expliquer que Jésus fait des miracles messianiques quand ça fait des années que tu enseignes, toi qui es prêtre, dans les synagogues, que seul le Messie pourra faire ce genre de miracle-là? Ah, c'est par Belzébul. Ils avaient un problème. Et le troisième miracle messianique, c'est la guérison d'un aveugle de naissance. On n'aura pas le temps, vraiment pas cette année, tout de suite ce matin, d'expliquer ça. C'est dans Jean 9, on le verra une autre fois. Mais on associait encore là, la guérison d'un aveugle de naissance, on associait ça à un châtiment de Dieu. C'est pour ça que les disciples, demandent à Jésus, comment ça se fait qu'il est né aveugle? Est-ce que c'est de sa faute? C'est-tu lui qui a péché ou ses parents? Comment ça peut être sa faute? Il était dans le ventre de sa mère avant de naître. Et c'est parce que les rabbins enseignaient qu'il y avait un conflit spirituel dans le ventre lorsque tu étais en formation dans le ventre, lorsque tu étais je pense à toutes les femmes enceintes en ce moment. Là, n'ayez pas peur de ça. Ça, c'est juste les rabbins qui enseignaient ça. C'est pas vrai. Il y avait un combat spirituel dans le ventre de la mère quand tu étais en développement. Et c'était le bien contre le mal. Et si le mal le remportait, puis tu étais pour être méchant dans ta vie, tu donnais un coup de pied dans le ventre de ta mère. Et en conséquence, Dieu te donnait un châtiment, une punition, d'où tu naissais aveugle. Donc, c'est pour ça que les Juifs, eux autres, ont dit « ça prend absolument un miracle messianique pour guérir ça » parce que le gars qui naît aveugle a péché et ça vient de Dieu, voyez? Et Jésus le guérit, donc, un autre miracle messianique. Dans Matthieu 8, 4, Jésus dit « Va te montrer au sacrificateur, présente-lui l'offrande qu'il a prescrit. Matthieu va faire quelque chose de vraiment intéressant. Il va élaborer 3 miracles et il va conclure en disant que Jésus, après ça, a fait plusieurs miracles. Si vous êtes toujours avec moi dans Matthieu 8, et je vais clore là-dessus, dans Matthieu 8, 16 et 17, voici ce que Matthieu va dire. Le soir, alors il vient faire 3 miracles, la guérison du lépreux, tout de suite après, la guérison du serviteur du centenier, et après, la guérison de la belle-mère de Pierre. Et après, il conclut en disant verset 16, tout de suite après, Matthieu 8, 16, le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades. Et regardez bien maintenant l'interprétation de Matthieu. Alors, c'est l'interprétation théologique de Matthieu sur tous ces miracles-là. Il tire une conclusion. Afin, alors il a fait tous ces miracles, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et ça, c'est une parole très puissante, surtout dans l'esprit d'un Juif, et pour nous, parce que tout de suite, Matthieu nous aide à interpréter tout ce qui se passe comme étant une réalisation de la prophétie tant attendue d'Ésaïe 53, où Jésus prendrait sur lui nos péchés, et pas juste nos péchés. Nous savons que la maladie, au bout du compte, résulte quand même au début des temps au péché, vrai? On pense à la chute. Et c'est là que la maladie est entrée. Donc, la croix de Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, était là aussi pour purifier nos péchés. Mais ultimement, si on veut avoir un corps glorifié au ciel et pour l'éternité où il n'y aurait plus de souffrance, plus de maladie, la croix devait aussi régler cette question-là. C'est la raison pour laquelle, dans la prophétie d'Ésaïe, on dira « Le Messie prendra sur lui non seulement nos péchés, mais également nos maladies. » Très intéressant dans Ésaïe 53, lorsque nous lisons versets 6 et 8, qui dit ceci « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et négoie en hébreu. Il a été frappé pour les péchés de mon peuple. Et négoie veut dire les marques d'un lépreux. C'est la raison pour laquelle les rabbins sont venus à dire que le Messie sera appelé le lépreux. Imaginez. Imaginez tout le sens ici de ceux qui voyaient toutes ces choses et essayaient de trouver des réponses à tout ce qui se passait ici. Le Messie sera appelé le lépreux. Et effectivement, pour que nous puissions entrer dans l'éternité avec un corps glorifié, à la croix, il fallait que Jésus-Christ prenne sur lui nos péchés, soit frappé comme un lépreux, maltraité, pour nous purifier et nous rendre purs. Prions le Seigneur. Eh bien, Seigneur notre Dieu, ta parole est tellement riche, tellement puissante, mais ce que nous voulons retenir ce matin, c'est comment le spectacle de la croix, de voir toute la richesse, l'implication de la croix, que tu voulais nous emmener auprès de toi pour l'éternité, au ciel, qu'on soit à tes côtés. Mais il fallait que tu prennes sur toi toutes nos iniquités, nos péchés, tout ce qui nous rendait impurs. Et tu nous as touchés un jour. Grâce à la croix, t'as fait l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut. Et aujourd'hui, on peut se tourner vers toi, Seigneur, et être déclaré pur. Merci, Seigneur, de ton salut. Au nom de Jésus. Amen.